Notre Bible dans le livre des Proverbes, Ancien Testament, après les Psaumes, livre des Proverbes, au chapitre 29, Proverbe 29, dont nous lisons les versets 15, 16 et 17. Je lis donc Proverbe 29, 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Nous allons vers le prophète Ésaïe, donc un peu plus loin. Prophète Ésaïe, chapitre 57. Ésaïe 57. Nous en lisons les versets 15 à 19. Ésaïe 57, versets 15 à 19. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom, c'est-à-dire la personne, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Et puis enfin, dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre de Paul à l'église de Corinthe, 2 Corinthiens, chapitre 2, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, dont nous lisons les versets 5 à 11. Et si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner, le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous en sommes donc à notre 11e étape dans ce tour biblique de l'éducation des enfants. Et nous considérons une première règle, règle pratique, une éducation ferme dès le berceau. C'est d'ailleurs avec cette affirmation et le développement du principe de l'obéissance que nous terminions notre précédent week-end, il y a 2 semaines de cela. Hier soir, en revenant sur le principe de l'obéissance, après avoir résumé, fait une synthèse très rapide des 3 premières séries, nous avons tout d'abord pris un peu de temps pour nous intéresser de près à l'irrespect de l'un des fils de Noé, qui rapporte très certainement avec moquerie non seulement l'ivresse de son père qui venait de prendre connaissance du fruit de la vigne, c'était un pionnier en la matière, et qui non seulement était ivre, mais en plus s'était dénudé, peut-être pendant son sommeil, sous la tente. Et cela nous a amené dans les relations entre enfants et parents, et parents et enfants, à nous pencher sur cette question de la nudité. Nous avons évoqué la place du vêtement dans la pensée de Dieu, dans les Écritures, à partir de la chute, puisque c'est là que le vêtement d'innocence et de gloire naturelle a dû être remplacé par un vêtement de matière, plus précisément d'ailleurs de matière animale, lié à une mort sanglante, comme si Dieu voulait déjà préfigurer de cette manière la nécessité d'un sacrifice suprême, sanglant, pour que le problème du péché de l'homme soit définitivement réglé un jour sur la croix. Et si nous avons fait cela, et la cassette vous permettra de prendre connaissance de cet enseignement, c'est parce que de plus en plus, le nudisme, le naturisme et une nudité trop facile fleurissent non seulement sur les panneaux publicitaires et les murs de nos cités, non seulement sur nos médias fortement prisés que sont la télévision, les vidéos et autres moyens de ce genre, mais aussi tout simplement dans notre vie de tous les jours, dans nos demeures et dans nos relations avec nos enfants, où des modes se développent qui font que parents et enfants, d'ailleurs de n'importe quel âge, couchent ensemble dans la nudité la plus absolue qui soit. Il importe donc que l'Église de Jésus-Christ n'ait pas, comme c'est trop souvent le cas, une longueur de retard, et qu'elle sache aborder ces questions. Trop souvent, c'est le monde qui a appris aux enfants et aux parents de nos églises ce que l'Église aurait dû leur apprendre. Combien de fois ai-je entendu des personnes venir à l'issue d'une étude sur des thèmes tout à fait concrets me dire « Mais si seulement j'avais entendu ce message il y a quelques années, cela m'aurait évité bien des errements dont je souffre encore aujourd'hui. » Alors avec sobriété bien entendu, il n'est pas question d'étalage malsain, nous devons aborder dans l'Église de Jésus-Christ ces problèmes de notre société qui s'infiltrent dans l'Église de manière à ce que l'Église soit équipée, non seulement pour notre propre santé, notre propre sainteté, mais aussi parce que nous avons des enfants éduqués d'une part, et parce que nous sommes appelés à donner parfois des réponses courageuses à ceux qui nous accusent d'être frileux et de vivre sous des joues lourds à porter dans notre vie de disciples de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons abordé cette question. Et puis nous sommes entrés de plein pied dans la pratique de l'obéissance, dans l'apprentissage de l'obéissance chez l'enfant, en y voyant un parallèle évident dans les Écritures avec l'apprentissage de l'obéissance dans la vie du nouveau-né en Christ, de celui qui vient de plaider coupable à la croix, d'être déchargé du fardeau de son péché, qui est entré dans une vie nouvelle, qui a reçu le Saint-Esprit, qui est un tout petit bébé nouveau-né au premier âge, et qui va très très vite être confronté avec cet esprit d'indépendance, cette volonté propre, cette tendance à vouloir absolument et de manière opiniâtre dire non à Dieu parce que l'on ne comprend pas. Alors j'aimerais, et ceux et celles qui étaient là hier soir ne m'en voudront pas, simplement relire ce texte très précieux, écrit par une mère de famille d'antan. Je veux parler de Suzanne Wesley, nous l'avons évoqué hier soir, mère de famille nombreuse, en des temps qui étaient extrêmement difficiles. Elle a mis quelques 16 ou 17 enfants au monde, 11 en tout cas sont restés en vie au moins pendant l'enfance et l'adolescence, et elle a donc dû s'occuper de leur éducation avec un mari qui était très chargé, qui avait un ministère très important, qui voyageait aussi souvent, nous aurons l'occasion d'en reparler ultérieurement. Et elle a été une maman qui a vraiment été un exemple dans ce domaine de l'éducation des enfants. Et je vous rappelle, où nous l'apprenons, ce qu'elle a écrit sur ce que nous appelons le brisement de la volonté propre de l'enfant. Si l'on veut vraiment éduquer un enfant, écrit-elle, il faut d'abord le vaincre, le verbe est mis entre guillemets, dans une douce fermeté. Cela n'est pas difficile aussi longtemps qu'il est encore jeune. L'amour des enfants sera ingénieux pour le bien véritable de l'enfant. L'entêtement destructeur vient de ce qu'on l'a laissé faire trop longtemps ce qu'il voulait. Dès que la volonté propre est brisée, que l'enfant a du respect pour ses parents, on peut alors passer par-dessus bien des choses sur lesquelles on peut fermer les yeux. Mais pour certaines autres, il faut tenir ferme. Ne pas laisser passer une désobéissance à une justice clairement démontrée sans lui appliquer le châtiment qui lui correspond. Ne pas permettre au « hasard » entre guillemets des circonstances de châtier l'enfant en lui disant « c'est bien fait ». Vous favoriseriez ce faisant l'irritation et la révolte. « Je suis convaincu, ajoute Suzanne Wesley, que la volonté propre d'un enfant doit être brisé dès son jeune âge. C'est la seule base saine et raisonnable d'une éducation vraiment chrétienne. Partout cela n'est pas fait, l'enseignement, autant que le bon exemple, reste sans résultat. La volonté propre est la racine de tous les péchés et souffrances. Tout ce qu'elle produit dans l'enfant est responsable de ses misères futures et de sa révolte contre Dieu. Tout ce qui aide à la briser favorise l'entrée dans le bonheur, la crainte de Dieu et le salut par l'Évangile. Et notre dernier mot hier soir était pour dire attention. Attention à travailler à ce que nous avons appelé le brisement de la volonté propre avec amour. C'est-à-dire comme Dieu le fait avec nous. Comme Dieu le fait avec nous. Parce que qui dit brisement ? Et c'est un mot qui est parfois très prisé, très aimé dans le vocabulaire évangélique. Nous avons parfois dans nos bibliothèques des livres dans lesquels des chapitres entiers sont consacrés au brisement de la volonté propre, parfois même, et c'est plus dangereux, au brisement de la volonté tout court. De tels chapitres me font frémir. Parce que quand je lis de tels propos, j'ai l'impression d'être en face d'un braconnier qui vient de s'emparer d'un lièvre et qui lui brise l'échine. Heureusement que Dieu ne fait pas ainsi avec nous. Heureusement que Dieu ne nous brise pas la colonne vertébrale. Vous savez d'ailleurs quel serait le résultat. Et pourtant, c'est si vite fait d'avoir dans notre relation avec nos enfants cette mentalité qui brise, mais qui brise à un point tel qu'il va rester des blessures pendant de longues années de vie. Des handicaps qui vont se traduire par de lourds, de durs combats à partir de la nouvelle naissance. Lorsqu'on aura affaire à des enfants nouveau-nés dans la foi, qui seront soit des révoltés, soit des véritables, pardon de le dire ainsi, c'est sans mépris, mais de véritables lavettes, incapables de faire acte de volonté. Parce que passer sous le rouleau compresseur de l'autoritarisme, du despotisme, d'une sorte de violence outrancière, dans l'éducation des enfants. Une maman a écrit à un homme de Dieu qui a beaucoup à enseigner sur l'éducation des enfants. C'est d'une manière particulière le domaine dans lequel Dieu l'a équipé. Une maman a écrit cette question. J'aimerais contrôler et conduire comme il faut mon enfant, qui est particulièrement obstiné. Cependant, j'ai peur de briser son esprit et d'affecter ses émotions de quelque manière. Comment puis-je corriger son mauvais comportement sans endommager l'image qu'il a de lui-même ? Et ne soyez pas trop rapide, à dire que le concept de l'image de soi n'appartient qu'au monde des aberrations d'une psychologie moderne qui n'y comprend rien. C'est pas tout à fait vrai. Dites en tant que disciples de Jésus-Christ à vos enfants du matin au soir qu'ils sont de terribles pécheurs et vous verrez le résultat. Nous l'avons dit hier soir, nous l'avons souvent dit le passé, nous devons veiller à être équilibrés selon le Seigneur dans ces domaines. J'aime Dieu parce qu'à la fois il me rend sensible à ma nature propre dont nous avons éminemment parlé. Rappelez-vous Rousseau et la Bible. Mais ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir être fier de marcher la main dans la main de mon Papa céleste. Fier d'être ce qu'il fait de moi. Fier d'être au bénéfice de sa grâce. Fier d'être un fils du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et il faut que continuellement notre vie s'équilibre en acceptant et en contemplant ces deux pôles pour une vie chrétienne équilibrée. Voici la question qui est la réponse qui est donnée à cette question. J'ai l'impression que vous ne saisissez pas très bien la différence qu'il y a entre le fait de briser l'esprit d'un enfant et le fait de former sa volonté. L'esprit humain, comme je l'ai défini, est lié à l'estime que l'on se porte à soi-même ou à la valeur personnelle que l'enfant sait posséder. Tout cela est très fragile à tout âge et doit être manipulé avec beaucoup de précautions. En tant que parent, vous avez raison de supposer que vous pouvez altérer l'esprit de votre enfant assez facilement en le ridiculisant, en lui manquant de respect, en le menaçant de lui retirer votre affection ou en le rejetant par vos paroles. Tout ce qui dévalue l'estime qu'il a de lui-même peut se révéler coûteux pour son esprit. Et il m'est arrivé dans mon propre ministère de devoir récupérer, comme on dit, à la cuillère, des vies de croyants qui avaient été réduites en miettes à cause de cette sorte de mépris permanent d'aînés disant à leurs enfants ou à ceux qu'ils éduquaient « Tu ne vaux rien ». Mes amis, dites ça pendant des années à quelqu'un et vous verrez le résultat. L'auteur de la réponse ajoute « Cependant, si l'esprit est fragile et doit être traité avec bonté, la volonté, elle, est faite d'acier. C'est un des rares éléments de nature intellectuelle qui atteignent sa pleine force dès le moment de la naissance. » Dans une édition récente d'un magazine, on rapportait par cette phrase les conclusions d'une étude sur l'enfance. Le nourrisson sait qui il est avant de posséder le langage nécessaire pour le dire. Il s'efforce délibérément de contrôler son environnement et plus particulièrement ses parents. J'aime Dieu, mon Dieu, parce qu'il n'éduque pas en tyran, parce qu'il n'écrase pas notre personnalité. D'ailleurs, c'est un miracle absolument extraordinaire que la Bible que nous avons entre les mains, puisque nous le croyons de tout notre cœur, sans la moindre réserve mentale. Ces 66 livres qui constituent cette bibliothèque céleste sont entièrement inspirés de Dieu. Dieu a inspiré de mille et une manières, mais absolument, totalement, les rédacteurs de une quarantaine de l'ensemble de notre Bible. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que en les inspirant, il a respecté leur personnalité. Au point que tout disciple de Jésus-Christ qui baigne dans le climat des Écritures, qui s'imprègne des Écritures pendant un certain nombre d'années, en arrive à une certaine époque de sa vie avec le Seigneur à pouvoir déterminer quel est le rédacteur inspiré d'un passage, même parfois peu connu, simplement parce que ce passage a quelque part porte l'empreinte de la personnalité de son rédacteur. Et il dira, ça, c'est pas du Jérémie. Ça, c'est de l'Ésaïe. Comme le bon goûteur d'un grand cru, n'est-ce pas, va vous dire, après un certain temps, oui, je sais de quelle terre cela sort, de quel endroit, de quel genre de vignoble, etc. Il en est de même des Écritures. Et ça, c'est lié à l'infini respect de Dieu pour notre personnalité. Quelle diversité de personnalités dans les Écritures. Élie, Élisée, mais quel monde entre les deux. Et nous pourrions prendre tant d'autres exemples. Mais en même temps, quel travail de Dieu en eux pour réduire à néant cet esprit d'indépendance, pour amener un esprit souple, un désir de faire la volonté de Dieu de jour en jour et d'heure en heure. Disons-le de la manière la plus claire qui soit, la Bible est contre une éducation strictement répressive où tout reposerait sur la crainte, sur la peur des parents. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Un auteur a décrit l'équilibre entre la discipline et la miséricorde, d'une manière très imagée que j'aime beaucoup. La vie chrétienne est semblable au cadran d'une horloge. Les aiguilles sont les mains de Dieu qui repassent constamment. La petite aiguille de la discipline est la longue aiguille de la miséricorde. Lentement, mais sûrement, l'aiguille de la discipline doit passer et Dieu parle à chaque coup. Mais l'aiguille de la miséricorde revient toujours, déversant sur nous 12 bénédictions pour chaque châtiment ou épreuve. Les deux aiguilles sont attachées au même pivot, le grand cœur immuable de notre Dieu d'amour. Ce qui est dit en rapport avec la discipline de l'enfant de Dieu par le Père Céleste est tout aussi valable pour la discipline de l'enfant par ses parents terrestres, puisque c'est vers le modèle, vers le Père Céleste, que nous devons porter nos yeux pour apprendre à bien éduquer nos enfants. Un éminent artiste anglais dont j'ai le nom si sur mon papier, qui a d'ailleurs été anobli, artiste anglais du 19e siècle, alla un jour prendre le thé chez sa fille. Puisque c'était une occasion spéciale, sa petite fille fut admise à table. Elle se conduisit mal et sa mère la punit en la mettant au coin, face au mur. Son grand-père, ce fameux artiste anglais, bien éduqué, n'intervint pas sur le moment. Ça, c'est encore un petit tuyau pour l'éducation des enfants. Il arrive parfois que les grands-parents interviennent alors qu'il ne faudrait pas. Ce n'est pas le moment, il y a un temps pour tout. Et comme il était bien indiqué, éduqué, donc il n'intervint pas sur le moment, mais le matin suivant, il arriva chez sa fille avec de la peinture et des pinceaux. Je ne conseille pas à tous les parents, les grands-parents de faire de même. Ça a marché dans ce coup-là, dans ce cas-là, mais ça ne marche pas toujours. Il se dirigea vers le coin de la pièce où la fillette avait été mise la veille et il y peignit des images. Un chat courant après sa queue, des agneaux dans un champ, des poissons en train de nager. Il décora les deux murs du coin avec de jolies peintures pour faire les délices de sa petite fille. Ainsi, si elle devait être mise au coin une autre fois, elle aurait au moins quelque chose à regarder. Et l'auteur de cette petite illustration, vrai donc, d'ajouter, il en va de même pour notre Seigneur. Quand nous commettons des actes répréhensibles, il peut nous discipliner, parfois même très sévèrement, mais il ne nous tourne jamais le dos. Il n'envoie pas son enfant en enfer. Nous ne sommes pas non plus déchus de la grâce et flanqués violemment derrière les barreaux de fer de la loi. Il traite les siens avec grâce. Une faveur à la fois merveilleuse et imméritée. C'est quelque chose qui me frappe. Dans un des livres de l'Ancien Testament, parmi les plus difficiles à lire. Et je ne veux pas parler ici du livre du Lévitique ou du premier livre des Chroniques, ni même de quelques petits prophètes, comme on les appelle. Je veux parler ici du livre des Lamentations de Jérémie. Parce que c'est un livre inondé de larmes et de souffrances. C'est un sol complètement gelé par des températures terrifiantes, d'où subitement, pourtant curieusement, jaillit une fleur absolument extraordinaire au chapitre 3. Jérémie, complètement brisé par la douleur, le chagrin et l'amertume, à cause du tableau terrifiant de Jérusalem, complètement mis à sac sans dessus dessous de ces cadavres dans les rues de la cité, de ce temple qui vient d'être détruit après avoir été incendié, ravagé. Subitement, Jérémie a le sentiment que Dieu est en train de sécher ses larmes à quelque part. Dieu rappelle ses compassions. Dieu rappelle son amour. Dieu rappelle sa bonté, sa fidélité. Au point que finalement, Jérémie, dans cette situation si difficile, va s'écrier un tout petit peu plus tard, « Ce n'est pas volontiers ». Qu'il, l'Éternel, humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Ce n'est pas volontiers, Dieu ne se plaît pas à humilier les enfants des hommes. Dieu ne se plaît pas à corriger ses enfants. Il préférerait de loin ne pas avoir besoin de le faire. Et les Écritures nous apprennent d'une manière assez extraordinaire que la préférence de notre Dieu va au pardon. De loin. J'en veux pour preuve cette déclaration, pourtant sur le sommet du Sinaï, après que Dieu ait donné les 10 commandements, il les a assortis de commandements second, développement de ces 10 commandements, un peu plus tard, dans Exode 34. L'Éternel répond à la requête de celui qui est passionné de son Dieu, Moïse, Fais-moi voir ta gloire. Il lui montre, je l'ai dit souvent, la gloire, la pesanteur, le poids de sa grâce. Chapitre 34, verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour, son chérissement, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Vous remarquez que s'il est question de punition, de châtiment, de condamnation, il est d'abord question par excellence de la lenteur de Dieu à la colère, de sa grande compassion, de son chérissement. Le mot revient 2 fois dans ces versets. La préférence de notre Dieu va au pardon. Donc, oui, à ce brisement de la volonté propre, à ce travail de canalisation de la volonté de nos enfants, à ce travail qui consiste à courber dans une certaine direction. Il faut le faire quand l'enfant est petit, nous l'avons déjà dit, hein, ça c'est comme l'arbrisseau, il faut s'y prendre tôt pour mettre des tuteurs. Mais non à l'écrasement de la volonté avec ces dégâts subséquents, c'est-à-dire qui sont la conséquence d'un tel écrasement. Car il y aura, suivant le tempérament ou la passivité ou la révolte, il y aura des problèmes au niveau du mariage, il y aura des problèmes au niveau de la sexualité. Et faut-il dire que dans les nombreuses raisons de l'homosexualité masculine et féminine aujourd'hui, je dis bien dans les nombreuses raisons, il en est 2 qui sont les signes et les conséquences des déséquilibres d'aujourd'hui dans les rapports parents-enfants. La première sera pour souligner trop souvent l'absence des parents. Et l'absence des parents, ou le laisser faire par les parents, la mollesse des parents, est génératrice d'une certaine homosexualité. Je ne vais pas passer toute la matinée à vous l'expliquer. Mais elle est génératrice d'une certaine forme d'homosexualité. Et à l'autre extrême, c'est la domination excessive, le despotisme, l'autoritarisme des parents, cet écrasement qui produit lui aussi, chez certains tempéraments, une tendance à l'homosexualité. L'un de mes professeur dans le domaine de ce qu'on appelle la théologie pratique, donc qui traite de toutes ces questions et qui a écrit un certain nombre de livres remarquables sur ces sujets, a notamment souligné tout d'abord cette remarque d'un autre écrivain dans un de ses livres. On est effrayé en songeant au nombre incalculable de maladies psychologiques, d'éducation manquée, d'homosexualité, d'échecs absolus dus à l'autoritarisme sous toutes ses formes. Et l'auteur du livre ajoute, il y aurait lieu d'ajouter qu'un des méfaits de cet autoritarisme, c'est qu'il oblitère, pensez à un timbre oblitéré sur lequel le cachet est mis à la poste, n'est-ce pas? C'est qu'il oblitère l'esprit et le cœur des enfants. Il y imprime, oblitéré, il y imprime une image de Dieu semblable à celle qu'ils ont de leur père ou mère, despote inconscient. Parce que les parents, hélas, ne sont pas toujours conscients qu'ils se conduisent en despote, parfois même parce qu'ils ont été éduqués de cette manière ou parce qu'ils vivent dans une culture où tout le monde a un peu cette tendance à la violence dans l'éducation des enfants. Alors on considère que c'est une chose habituelle, qui a toujours été faite ainsi, et on n'est pas du tout conscient des ravages que l'on opère en faisant de cette manière. Devenus adultes, ou bien ces enfants rejettent Dieu à cause de la notion faussée qu'ils en gardent, ou bien leur authentique spiritualité laisse paraître, en beaucoup de leurs comportements, cette image déformée de l'autorité du Seigneur. Ils ont besoin d'une double guérison. D'abord spirituelle. Il s'agira de corriger leur notion de l'autorité divine et de les rétablir dans une juste relation de soumission à Christ. Comment croyez-vous que un jeune homme, une jeune fille qui se convertissent réagissent quand on leur parle de se soumettre à l'autorité de Dieu, si du matin au soir ils ont dû se soumettre avec une crainte phénoménale au point d'en faire des cauchemars à l'autorité abusive d'un père? Ça ne va pas se régler tout seul. Et combien de fois il m'est arrivé de devoir aider, et ça prend du temps, croyez-moi, d'aider quelqu'un à réaliser que sa soumission vis-à-vis de Dieu et l'autorité de Dieu à son égard n'avaient rien à voir avec l'autoritarisme qu'il avait connu dans son éducation et avec la soumission qui lui avait été réclamée. Ensuite, deuxième guérison psychique. Il faudra les rendre conscients de la domination qu'exerce sur eux, tel un lien solidement filé, la vénération plus ou moins craintive qu'ils gardent envers tel parent autoritaire, parfois même envers son souvenir tout aussi paralysant. Ils seront invités à s'en défaire, même à s'en séparer spirituellement et psychiquement. Il y a parfois des sortes de liens à quelque part, n'est-ce pas, créés dans l'esprit, parce que même une fois devenu grand, une fois devenu adulte, parce que les parents sont encore là et qu'ils se sont parfois conduits de manière absolument abusive dans leur autoritarisme, subsiste une crainte malsaine qui continue à fausser les relations entre les enfants devenus adultes et les parents qui souffrent de leur côté de ce type de relation anormale. Premièrement, nous avons dit travailler. Surtout tant que l'enfant est petit, très tôt, à ce brisement de l'esprit d'indépendance. Deuxièmement, exiger une obéissance rapide, sans discussion. Plus l'enfant est petit, plus l'obéissance doit être rapide et sans discussion. Nous l'avons d'ailleurs déjà souligné. N'en est-il pas ainsi dans notre vie de disciple de Jésus-Christ? Je te demande simplement de faire, de me laisser faire ce qui est prévu dans le plan de Dieu. Je dois te laver les pieds. Non, maître, pas question. Simon, je dois te laver les pieds. Ah ben alors, si tu me laves les pieds, ben on va prendre un bain. Simon, non. Si je te lave les pieds, c'est suffisant. D'ailleurs, Simon, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras bientôt. Laisse-moi faire. Tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Et dans la relation des disciples avec leur futur sauveur, combien de questions sont restées sans réponse? Ils devaient simplement suivre. Et c'est après la résurrection et après que le Fils soit retourné vers le Père que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont commencé à comprendre bien des choses. Ainsi en est-il dans l'éducation que Dieu nous donne. Et je te fais confiance, je veux obéir. Un jour, je comprendrai, si ce n'est pas ici-bas, ce sera là-haut. Mais puisque c'est si clair de ta part, mais simplement, je veux obéir. Obéissance rapide, sans discussion, et qui sait si les discussions sont à la mode aujourd'hui dans nos écoles. Il faut toujours tout discuter. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On n'en finit plus. On a l'impression du matin au soir d'être en train de négocier pour des bêtises. Et ça coûte cher. Ça coûte cher en drame. Pensez à ce couple missionnaire au Zaïre qui avait un garçon nommé Philippe. Et là, sur la station missionnaire au Zaïre, Philippe est en train de jouer dehors, lorsque, soudainement, la voix de son père s'élève. « Philippe, obéis à ce que je te dis, mets-toi vite à plat ventre !» Et Philippe, d'obéir et de se jeter à plat ventre, subitement, comme sur le parcours des combattants. Et le père de lui dire, « Maintenant, Philippe, viens vers moi à quatre pattes aussi vite que cela t'est possible. » Et le garçon de ramper vers lui, « Maintenant, tu peux te lever. Cours vite jusqu'à moi. Viens dans mes bras. » Et Philippe, d'obéir, de se jeter dans les bras de son père. Et le père lui dit, « Regarde maintenant derrière toi. » Et avec horreur, les yeux de l'enfant s'écarquillent en découvrant sur la branche d'arbre sous laquelle il jouait l'instant d'auparavant un serpent dangereux de long de plusieurs mètres. Imaginez que cet enfant ait été mal éduqué. Imaginez que dès sa plus tendre enfance, les parents se soient lancés dans de longues discussions d'explications à ne plus finir et incompréhensibles au sempiternel pourquoi qui voulait dire en fait « fous-moi la paix ». Pardon de le dire ainsi, parce qu'il y a des pourquoi dans la petite enfance qui dit « laisse-moi tranquille, je veux de toute manière faire ce que j'ai envie de faire ». Vous vous rendez compte ce qui serait arrivé? Et voyez-vous, je crois que à l'heure où les animaux domestiques ont envahi notre société, et je suis de ceux qui trouvent que ça devient rudement inquiétant à quelque part, ils signent quand même peut-être d'un déséquilibre et de problèmes de fond. Eh bien, je trouve que souvent, les animaux sont mieux éduqués que les enfants. Lève la patte. Susuc.
Donne ta patte. Vous connaissez ça?
Dans l'autobiographie de Roger Frison-Roche, qui est décédé il y a quelques années, ou peu d'années en fait, et qui a écrit de remarquables ouvrages, mais qui sont plus ou moins méprisés aujourd'hui parce que c'est pas assez hard. Roger Frison-Roche a écrit un livre intitulé « Le versant du soleil », dans lequel à un moment donné il raconte comment il est en train de bavarder avec un paysan, peut-être guide en hiver, paysan pendant une partie de la saison, nommé Luc Tournier, dans la région de Chamonix. Ils sont en train de discuter. Et voilà que le chien de Luc Tournier vient se frotter contre les jambes de son maître. Alors Luc, voyant le chien qui se frotte contre lui, se met à parler du chien à Roger Frison-Roche et lui dit « Tu sais, Roger, je n'ai qu'à lui dire « Mousse », c'était le nom du chien, « Mousse », M-O-U-2-S-E, « va chercher les moutons ». Et Mousse me les ramène, même s'ils sont très très hauts et très loin dans la montagne. Et à ce moment-là, Luc se penche affectueusement sur son chien, Mousse, pour le caresser. Le chien se met à japper de plaisir, et voilà qu'il part comme une flèche. Tard le soir, le chien ramène les moutons qu'il est allé chercher à 3000 mètres d'altitude. Et Luc va devoir faire 4 heures de marche pour remonter ces moutons sur les alpages. Ah, mes amis, combien nous sommes capables d'être zélés dans l'éducation de nos chiens, alors même que nous avons abandonné l'éducation de nos enfants à des maîtres qui sont parfois, hélas, plus que des apprentis sorciers. Alors ici, nous devons ouvrir un autre paragraphe. Nous avons évoqué le brisement de l'esprit d'indépendance, la nécessité d'exiger une obéissance rapide et sans discussion, surtout quand l'enfant est petit. Et cet autre paragraphe va toucher à un domaine délicat, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait précéder ce point par tout ce que nous avons affirmé sur l'équilibre dans ce domaine de l'éducation, de la correction et du brisement de l'esprit d'indépendance. Nous voulons parler ici de l'utilisation du châtiment corporel. L'utilisation du châtiment corporel, et nous devons dire, que cela nous plaise ou non, que Dieu, dans sa parole, n'exclut pas l'utilisation du châtiment corporel. Nous pouvons d'ailleurs le dire avec d'autant plus de force que plus notre monde moderne et notre Europe en particulier s'éloigne de Dieu, plus elle est hostile au châtiment corporel. Et je suis persuadé que c'est parce qu'elle s'éloigne de Dieu qu'elle est hostile au châtiment corporel. Mais attention, je le redis, nous marchons sur des œufs. Rappelons-nous ce que nous avons dit sur le caractère de Dieu, sur son chérissement, sur sa lenteur à la colère, nous allons y revenir. Nous allons devoir parler tout en nuances. Parce que c'est vrai que dans l'Église de Jésus-Christ, parce que beaucoup de parents
même s'il y a des problèmes, ont quand même soif d'avoir des enfants qui obéissent, n'est-ce pas? On est tenté d'appliquer, sans nuance, des passages qui traitent du châtiment corporel, parce que peut-être ils collent tout particulièrement avec notre tempérament. D'où la nécessité de prendre des précautions. Alors tout d'abord, quelques lectures, en particulier dans le livre des Proverbes, déjà évoqué. Proverbes, chapitre 13, verset 24. Proverbe 13, verset 24, « Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Chapitre 22, verset 15, « La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. » Il n'est pas dit la correction tout court. La verge de la correction l'éloignera de lui. Chapitre 23, versets 13 et 14. « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » C'est quand même quelque chose de très fort ici, n'est-ce pas? Et enfin, chapitre 29, versets 15 à 17. Chapitre 29, versets 15 à 17. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Voilà quelques textes, parmi d'autres, qui ne vont pas du tout dans le sens de cette loi qui a déjà été votée il y a 23 ans, pratiquement, par le Parlement suédois le 16 mars 1979, et je m'étais empressé de noter, tenez-vous bien, par 256 voix contre 6, à une majorité donc écrasante, loi mise en application en Suède dès le 1er juillet 1979, quand le décret d'application a été promulgué, interdiction de fesser les enfants, de leur donner une taloche ou de leur adresser une sévère réprimande. Toute punition causant une souffrance physique ou morale, même légère ou temporaire, sera considérée comme un délit passible des tribunaux. Lourdes amendes et cours de recyclage pour les parents contrevenants. J'ai appris tout récemment, je crois même que c'est entre les deux dernières séries, ou juste avant la dernière, que les Anglais étaient en train de nous préparer une de ces lois pour la perfide Albion, pardon, pour la Grande-Bretagne. J'aimerais ici, avant de prendre un texte encore, souligner ce que la remarque que fait James Dobson, dont nous avons un bon livre sur tous ces sujets, ou plusieurs même. Il évoque ces spécialistes qui disent qu'une fessée apprend à votre enfant à frapper les autres, faisant ainsi de lui une personne plus violente. C'est intéressant parce que nous avons absolument, vous le verrez encore, les idées les plus bizarres et contradictoires sur la question dans le monde moderne, parce qu'on n'a plus de repères. D'ailleurs,
Faut-il dire que ces mêmes spécialistes qui disent qu'une fessée apprend à l'enfant qui la reçoit à frapper les autres et à faire de lui une personne plus violente, ces spécialistes s'insurgent quand vous osez leur dire « Mais quand votre enfant regarde la télévision et s'abreuve de films violents, bien entendu, ça ne lui fait que du bien. » Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la contradiction d'aujourd'hui, n'est-ce pas? On vous dit qu'on peut regarder tous les soirs des choses abominables et que nous avons une capacité extraordinaire de faire le tri et d'en sortir totalement indemne au point de nous comporter dans les salles de classe comme des anges dès le lendemain matin, n'est-ce pas? Mais à côté de ça, si un parent ose utiliser la verge pour frapper son enfant, on considère que l'enfant est un martyr et qu'en plus, il va à son tour frapper tout le monde. Allez y comprendre quelque chose. Et James Dobson a raison d'ajouter, mais quelle absurdité! Si votre enfant a déjà touché du doigt un four bien chaud, et quel est l'enfant qui ne l'a pas fait, hein, vous êtes à peu près sûr qu'il ne le refera plus volontairement. Il n'est pas devenu une personne plus violente le jour où le four l'a brûlé. En réalité, il a appris une leçon très importante à cause de la souffrance endurée. De même, s'il tombe de sa chaise haute, qu'il se pince le doigt dans une porte ou qu'il est mordu par un chien mécontent, il continue son apprentissage des dangers physiques du monde dans lequel il vit. Ces coups et blessures reçues à travers l'enfance sont le moyen que la nature utilise pour lui enseigner que le monde physique qui l'entoure doit être respecté. Ils ne portent pas atteinte à l'estime qu'il se porte à lui-même. Ils ne font pas de lui une personne vicieuse. Ils ne font que lui permettre de se familiariser avec la réalité. De la même manière, une fessée administrée par un père ou une mère remplie d'amour, pour un acte délibérément provocateur, offre le même service. Cela lui fait savoir non seulement qu'il existe des dangers qu'il faut éviter, mais qu'il doit se diriger également à l'écart des pièges que tend la société. Égoïsme, défi, au pluriel, malhonnêteté, agression, etc. Et là alors, nous sommes obligés de prendre le passage à considérer comme, comment dire, la Marseillaise du châtiment, de la correction, de l'usage de la verge dans le Nouveau Testament, à savoir un texte que nous lisions hier soir, mais que nous n'avons pas abordé dans le détail, Hébreux, chapitre 12, versets 4 à 11, que nous allons tout juste commencer à commenter. Nous arrêterons assez rapidement puisque nous avons une dernière réunion cet après-midi. Hébreux 12, versets 4 à 11. Hébreux 12, versets 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et le verbe lutter ici, c'est un mot composé dans le texte grec, mais qui notamment a donné en français, littéralement, par francisation, le mot agonie. L'agonie. Donc un terme extrêmement fort, n'est-ce pas? Et il était utilisé jadis à cette époque, notamment par des athlètes qui se donnaient tellement dans l'effort des Jeux Olympiques, par exemple, qu'il arrivait qu'ils en perdent la vie. Il n'y a pas que le célèbre marathonien qui est mort à l'arrivée, hein, le fameux soldat, la bataille de Marathon, mais combien d'athlètes sont morts dans l'effort. donc terme extrêmement fort. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché.
Alors vous avez là la toile de fond.
Pourquoi l'utilisation du châtiment corporel n'est-elle pas exclue? Pourquoi certaines douleurs doivent être expérimentées par l'enfant?
À cause du péché.
Une fois de plus, nous revenons à notre case départ qui introduisait notre série il y a 2 semaines. C'est dans la mesure où je reconnais ma propre nature, le fait que dès ma petite enfance, dès que je viens au monde, je suis pécheur et que je vais devoir donc toute ma vie durant lutter contre le péché dans ma vie, avec ce que cela peut parfois signifier comme agonie. Et vous savez que nous passons parfois des nuits blanches à lutter contre le péché. Eh bien, l'utilisation, nous le verrons, équilibrée, non abusive, du châtiment corporel, s'inscrit précisément dans ce cadre. C'est parce que l'enfant, déjà tout petit, doit apprendre à lutter contre le péché, qu'il faut que ses parents lui donnent un coup de main à quelque part. Verset 5, et d'ailleurs les 2 versets qui suivent sont repris du livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 11 et 12. Nous n'avons pas lu le passage puisqu'il est ici. Vous avez oublié l'exhortation ou même l'encouragement. Le mot ici a les 2 sens. L'encouragement. Parce qu'en fait, le rédacteur inspiré de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas très bien qui c'est, mais le texte est inspiré, lui, ça on en est certain, veut encourager des croyants qui ont perdu des points de repère, qui ont reculé aussi. Et leur dit donc, vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît ou qu'il accueille. C'est plus chaud, plus beau, qu'il accueille comme ses fils. Alors vous remarquez, suivant la version que vous avez entre les mains, que j'ai volontairement remplacé châtiment ou le substantif châtier par correction et le substantif corriger. Tout simplement parce que c'est intéressant, le mot qui revient sous forme de nom ou de verbe de nombreuses fois dans ce court passage, hein, c'est un mot qui est apparenté à un petit mot grec qui veut dire ou qui désigne l'enfant mineur. L'enfant qui est encore sous discipline. L'enfant qui est instruit, soumis, corrigé. C'est ce mot-là. Il est vraiment là question, dans l'usage du terme, de l'éducation de l'enfant mineur. Donc il n'y a pas simplement, comme trop souvent dans le terme châtiment, une connotation négative. Quand on dit on châtie, il y a quelque chose qui fait mal parce qu'on ne voit qu'un côté négatif. En réalité, le mot utilisé n'a pas qu'une connotation douloureuse et négative. Je te corrige dans le but de t'édifier, dans le but de te construire. Et non pas dans le but de t'écraser, de t'anéantir et de rompre ta colonne vertébrale. Voyez la différence, elle est très importante ici dans ce texte. Et Dieu nous dit simplement
que Dieu utilise la verge avec amour. Vous l'avez remarqué, nous l'avons lu. Celui qu'il aime. Et qu'il le fait parce que nous sommes ses fils. Et bien entendu, ses filles. Nous sommes ses fils, ses filles. Nous ne sommes pas des bâtards, dit le texte. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Et loin de moi de vouloir mépriser quiconque ne serait pas un enfant légitimé, n'est-ce pas? Mais c'est une des versions bien connues qui a utilisé le terme « bâtard » pour mieux faire ressortir la différence entre un fils qui est élevé avec amour par un père qui l'a vraiment reconnu et accueilli, et puis l'enfant qui a été laissé livrer à lui-même, qu'on ne veut surtout pas voir inscrit sur son livret de famille, qui dérange, etc. N'est-ce pas? C'est là la force de ce texte. Béni soit Dieu de ce que depuis qu'il m'a rencontré et m'a sauvé par Jésus-Christ, je suis dans sa famille, je suis son enfant, et parce que je suis son fils, eh bien, il est normal que je sois discipliné, parce qu'il m'aime. Et vous savez combien dans certaines familles où on a accueilli un enfant qui n'était pas issu des liens du mariage, le fonctionnement d'un amour à deux vitesses a parfois créé des problèmes. Quand celui qui a été adopté, qui a été accueilli dans le foyer, n'est pas corrigé, alors même que les enfants issus du couple marié, eux, sont corrigés, et qu'ils le sont avec amour, qu'ils le sont avec justice, comme nous le verrons, qu'ils le sont au bon moment, bien évidemment, souvent, dans le cœur de l'enfant qui a été accueilli dans le foyer sans être originaire de la famille, il y a un sentiment de profonde injustice. Moi, je voudrais être traité à l'égal de ceux qui, en quelque sorte, à quelque part, sont devenus un peu mes frères et sœurs. Pourquoi est-ce que quand eux font une bêtise, on leur dit clairement non, quitte à leur chatouiller un peu les fesses, et pourquoi est-ce qu'à moi, on ne le fait pas? Nous allons nous arrêter sur cette note. Je la trouve encourageante. Je la trouve encourageante à la fois en tant qu'enfant du Père Céleste, lorsqu'il me corrige, et je la trouve encourageante à la fois pour nous, parents, et pour les enfants, même si il leur faut souvent attendre plus tard pour récolter le fruit de ce ministère de la correction pour lequel il leur arrive de verser des larmes et d'avoir quelques révoltes grondantes dans le cœur. Apaisé par l'amour, la tendre sollicitude, le chérissement des parents qui les aiment. Nous voulons prier. Notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu très haut, Seigneur des cieux et de la terre, et tu es, par pure grâce, mon papa chéri. Merci d'avoir fait d'un certain nombre d'entre nous tes fils et tes filles. Merci de nous avoir pleinement adoptés. Et merci pour tout ce que cela signifie, à la fois en sollicitude, en chérissement, en tendre soin, en fidélité parfaite, mais aussi en répréhension, en correction, en fessée, en avertissement. Tout cela parce que tu nous aimes, tu nous affectionnes et tu es fidèle dans ta fonction de Père. Ô Seigneur, donne-nous d'avoir soif de marcher sur tes traces dans notre vocation de parents, dans nos relations avec nos enfants. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Tu donnes la grâce à ceux qui viennent simplement te la réclamer. Tu donnes la sagesse à celui qui vient te la demander sans douter. Tu le fais à ta manière, mais tu le fais. Tu es fidèle. Et nous ne pouvons pas terminer, Seigneur, sans te demander pardon pour nos dérapages regrettables. Pour toutes les fois où nous avons fauté, nous t'avons d'ailleurs personnellement demandé pardon. Tu nous l'as montré. Seigneur, merci de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions aussi délaisser des mauvaises habitudes, des mauvais comportements au pied de la croix et changer l'approche d'éducation de nos enfants. Bénis l'heure qui suit de communion fraternelle, de partage ou de retour dans nos foyers et prépare d'ores et déjà, dans ta grâce, le temps que nous passerons sous ton regard cet après-midi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.